le magazine culturel du Bouquet Grandvillers.
Bienvenue à vous, à l'écoute du Bouquet Grandvillers pour un nouveau numéro du Grand Bain. Ravi de vous retrouver après une petite pause, histoire de se remettre un peu de ce carnaval, de cette 146e édition du carnaval qui fut, ma foi, mémorable. Marilyn, bonjour.
Bonjour Stéphane.
De quoi vas-tu nous parler dans ta rubrique cinéma aujourd'hui ?
Alors, je vais parler du film Un divan à Tunis.
Laurent, toi, dans ta chronique littérature.
Bonjour, c'est le centenaire de la naissance de Boris Vian.
Alors, on va parler de Boris Vian. Vous retrouverez aussi la nouveauté de Mathieu de la médiathèque. Et nos invités, eh bien, nous recevons cette semaine Christian Tostin et des gens du lycée de la Morandière à propos d'un jumelage qui a eu lieu entre l'archipel et le lycée de la Morandière. Ils nous parleront d'un projet basé sur l'Odyssée d'Homère et qui sera donné en représentation mardi prochain au lycée de la Morandière à Granville. Le Grand Bain numéro 15, ça commence maintenant.
Le Grand Bain, le magazine culturel du Bouquet Grandvillers.
Alors, comme toutes les semaines, on commence avec la rubrique cinéma, Marilyn.
Alors oui, on voulait dire un petit mot des
ah ben oui,
Césars.
Des Césars, de ces fabuleuses derniers, non 145e 45e pardon, cérémonie
oui,
des Césars.
Les Césars qui ont failli ne pas avoir lieu. Alors juste rapidement, parce que je vais pas, voilà, il y a déjà pas mal d'articles intéressants sur le sujet, donc je vais pas faire une analyse des Césars, d'autant que je l'ai vu de manière décousue, donc voilà, en morceaux. Mais je voulais juste saluer le prix du meilleur film d'animation, Jérémy Clapin,
voilà.
Puisqu'on l'avait interviewé pour le premier numéro de Nouvelle Vague.
Voilà, il y a un des premiers numéros des Grands Bains, du Grand Bain. Il nous avait fait la gentillesse de nous répondre. On est très content que Jérémy ait eu ce prix du meilleur film de long métrage d'animation. Et The Doux,
pour la musique aussi,
il y a eu le prix le César de la meilleure musique.
Oui, c'est vraiment mérité. On en avait parlé.
On en avait parlé à l'époque.
Et voilà, le discours aussi de Jérémy Clapin, vraiment intéressant sur le cinéma d'animation comme parent pauvre du cinéma. Voilà, c'est à rappeler que c'est du cinéma.
Voilà.
Tout simplement. Et puis l'Ajli aussi. On a parlé des Misérables il y a pas longtemps, donc c'est vraiment chouette pour toute l'équipe, pour le réalisateur. Il a eu le prix du public et le prix du meilleur film. Et puis, moi, je voulais juste inviter les auditeurs qui auraient manqué Portrait de la jeune fille en feu, d'inviter à soit acheter le DVD, soit à le consulter sur la médiathèque numérique, puisqu'il est en ce moment sur la médiathèque. Donc voilà, c'est un film à voir. Et puis, Laurent, tu voulais ajouter
Je voulais préciser que cette semaine post-César s'est ouverte avec deux articles explosifs, un de Virginie Despentes et un de Paul B. Preciado dans Libération. Et ça m'a, moi, fait penser, ça m'a donné envie de rendre hommage à ta première chronique, je crois, hein, Marilyn, et surtout à tes réserves sur le film de Polanski. Ce que Virginie Despentes traduit par 25 millions pour faire un téléfilm, c'est pas un artiste qu'on récompense, c'est un système. Voilà, tout était dit là.
Tout est dit.
Alors, le film de cette semaine.
Alors, Un divan.
Je crois qu'il t'a plus plu que J'accuse.
Oui, tout à fait. Donc, Un divan à Tunis. Alors, c'est un premier long. C'est le premier long métrage d'une réalisatrice franco-tunisienne qui s'appelle Manel Labadi, si je ne me trompe pas. Et avant de lancer la bande-annonce, donc, je voulais déjà dire que c'est une comédie. Ça fait du bien. Et avec un sujet original. C'est l'histoire d'une psychanalyste qui quitte Paris pour retrouver sa famille à Tunis et surtout ouvrir son cabinet. Alors, on est dans la Tunisie qui a vécu la révolution des printemps arabes. Et évidemment, cette histoire, cette comédie permet de révéler les contradictions d'un pays en reconstruction et elle le fait tout en légèreté.
J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine ?
Je viens travailler ici.
Quel travail? Il n'y a pas de travail ici.
J'installe mon cabinet sur le toit.
Un cabinet de psychanalyste ou nifitoli.
T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire.
Tu vas pas faire venir les fous chez nous?
C'est des patients que je recevrai chez moi.
C'est quoi tout ce bazar là?
Oui, les macrouettes.
Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique.
Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez?
Ah, Inch'Allah, Inch'Allah.
S'il vous plaît, oui ou non?
Mais encore Inch'Allah.
Pourquoi t'es rentrée, Sam?
Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi.
Est-ce que vous recevez des hommes chez vous?
Des hommes et des femmes.
Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées.
Sexe prison. So they
tell me. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je veux aussi appeler la police, si vous voulez.
J'ai pas compris. On m'a parlé d'une Française, d'un canapé ou...
Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie?
C'est le premier long d'une réalisatrice donc franco-tunisienne. Son nom, j'ai peut-être un peu écorché, c'est Manel Labidi Labbé. Et elle a seulement 36 ans. Voilà, c'est drôle, comme vous venez de l'entendre, léger et frais, ça fait vraiment du bien. Comme je disais, le sujet est original parce que c'est donc le personnage de Salma, le personnage principal, c'est une psy. Et elle a aussi la fonction donc, dans le scénario d'être étrangère. En fait, elle revient en Tunisie. Et ça permet d'entrer dans la vie des Tunisiens pour montrer un pays qui est en pleine reconstruction, à la fois sociale, politique, administrative. Selma, elle ouvre son cabinet face à l'incompréhension des locaux et elle se retrouve obligée d'arrêter son métier parce qu'il lui manque une autorisation d'exercer. Donc voilà, c'est là qu'on va rentrer dans la comédie avec une galerie de personnages cocasses comme la patronne de salon de coiffure qui veut faire du business avec elle ou l'employé bureaucratique qui passe son temps à manger. À son bureau, en fait, quand elle vient la voir pour savoir où en est son dossier. On a entendu tout à l'heure, alors, mais quand est-ce que, enfin, est-ce que ça va marcher? Elle lui dit Inch'Allah. Et la deuxième fois, elle lui dit non, mais vraiment, oui, Inch'Allah, on verra. Il y a aussi le trio de flics très procéduriers. On entend, là, voilà, vous recevez des hommes. Et elle répond, oui, des femmes aussi. et vous parlez de sexe à des personnes âgées. Voilà. Et il y a aussi un personnage très drôle, c'est sa nièce, qui, pendant tout le film, va débouler à l'improviste. En fait, soit elle se cache chez elle, soit dans sa voiture. Voilà. Donc, c'est un comique de répétition qui marche bien. Et de manière générale, en fait, il y a une belle tendresse pour tous les personnages. C'est aussi le portrait d'une jeune femme, donc Selma, une jeune femme indépendante, persévérante, qui masque ses failles, mais qu'on sent évidemment tout aussi fragile que ses patients. Il y a d'ailleurs une très belle scène avec son maître, en quelque sorte, son maître en psychanalyse. Je vous laisse imaginer, évidemment, je ne peux pas trop en dévoiler. Alors, pour le rôle de Selma, la réalisatrice avait en tête dès le début Golshifteh Farahani. Je ne sais pas si vous voyez cette actrice, une sublime actrice qui est d'origine iranienne, en fait. Et elle a un visage qui doit incarner en elle plein de nationalités parce qu'on l'a retrouvée dans plein de films. Alors, elle est afghane, par exemple, dans Singe Sabour, où elle a été kurde dans My Sweet Pepperland, un très bon film que je vous recommande, un espèce de western burlesque. Qui est ressorti d'ailleurs, qui a été programmé à Coutances il n'y a pas longtemps. Et elle était aussi à l'affiche de Patterson. Mathieu, vous nous avez parlé de ce film il n'y a pas longtemps là, dans le top 10. Donc elle était voilà, aussi aux États-Unis parce qu'elle a commencé, je crois, sa carrière à 14 ans. Enfin, ses parents venaient aussi du cinéma. Et on l'a fait venir à Hollywood vers l'âge de 25 ans, aux côtés de DiCaprio. Pas moins. Sauf que bah, quand elle est revenue en Iran, ça s'est très mal passé pour elle parce qu'on l'a suspectée de ternir l'image de l'islam et elle a subi 7 mois d'interrogatoire. Voilà, donc maintenant elle est exilée en fait. Donc elle dit, elle parle de cette souffrance de l'exil et elle porte en elle vraiment, enfin son visage porte la mélancolie de l'exil, mais la comédie lui va bien en fait. Je crois que ça doit être sa première comédie, me semble, et ça lui va vraiment bien. Alors peut-être un petit bémol s'il fallait, mais vraiment de manière générale, moi j'ai passé un très très bon moment, donc je vous recommande ce film. C'est que j'aurais aimé, en fait c'est juste que ça prouve que j'ai aimé, j'aurais aimé passer plus de temps avec les personnages, que les personnages secondaires, certains soient plus développés, comme par exemple, elle a un patient qui est paranoïaque du régime, donc imagine qu'il est filmé, qu'il y a des caméras, etc. dans la pièce. Voilà, mais c'est vraiment la seule petite réserve, parce qu'on passe beaucoup de temps avec elle et je comprends que la réalisatrice ait eu envie de s'attarder sur son visage sublime. Enfin, voilà, elle est très, très lumineuse. Et en même temps, on aimerait en avoir plus, mais c'est déjà super. C'est un film qui fait du bien et que je vous recommande.
Et la psychanalyse a inspiré plein de bons films.
Tout à fait. Et là, il y en avait. Là, c'est vraiment un sujet original parce que à Tunis, et puis parce qu'elle fait aussi le trajet inverse de ses parents et de beaucoup de gens. C'est elle revient en tant que Parisienne, donc évidemment, on va se moquer d'elle pour ça, parce que c'est une Parisienne qui débarque, quoi.
Super. Quels sont les autres films qui sont à l'affiche cette semaine ? Qui commence ?
Alors, je commence. On a De Gaulle, hein, de Gabriel Le Bomain, avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Il a fait le choix des deux mois qui vont fonder le mythe, hein, ou la légende, comme vous voulez, c'est-à-dire mai-juin 1940.
Papy Sitter de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguillard. Franck et Catherine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide. La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit peu fréquentable, débarque à l'improviste.
Un film d'animation en avant. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.
Vous pouvez voir aussi les Dark Waters de Todd Haynes. Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée, bien sûr, par un vilain puissant groupe chimique.
La cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Bastien a 20 ans et milite depuis 5 ans dans le principal parti d'extrême droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s'engager davantage.
C'est un film documentaire, je précise, La cravate. Et visiblement, j'en ai entendu parler, c'est assez stupéfiant. Un divan à Tunis, donc je viens d'en parler juste à l'instant. Et toujours à l'affiche.
Oui, et toujours à l'affiche. L'appel de la forêt de Chris Sanders, le cas de Richard Jewell de Clint Eastwood, 10 jours sans maman de Ludovic Bernard, Sonic, l'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde, et puis le Duc au but 3, comme son nom l'indique.
Quelques séances spéciales aussi cette semaine, ça commence dimanche, il y aura aussi, pardon, samedi à 19h, vous pouvez voir un opéra au cinéma, il s'agira de La Bohème de Puccini. Dimanche soir, il y a 20h45, vous pourrez voir Woman de Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. C'est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents.
Et à 17h, donc juste avant, c'est classique sur grand écran avec Requiem pour un massacre, donc de Elem Klimov. Ça se passe en Biélorussie. Un jeune villageois déterre le fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand. Et puis, une séance spéciale aussi le lundi 9 mars pour le rendez-vous des cinéphiles modernes, la Llorona de Gero Bustamante. La Llorona, c'est une pleureuse, un fantôme. Donc ça parle du génocide des Indiens Mayas. Je vous recommande aussi ce film.
C'est tout pour cette semaine, hein, si vous souhaitez avoir les horaires précis de toutes ces films. Alors, pardon, je voulais revenir sur le film dont tu nous as parlé, Un divan à Tunis. Il ne passe qu'une seule fois cette semaine à Granville.
Il reste une seule séance pour ceux qui peuvent au Select, mais il est aussi à l'affiche du cinéma de Hauteville-sur-Mer. Donc, je vous invite à aller voir leur programme sur Internet. Il a pas mal de séances à Hauteville, parce que voilà, au Select, c'était toute la semaine qui vient de
se terminer. Ouais. Voilà, et donc si vous souhaitez avoir les horaires de toutes ces séances, vous allez sur le site Internet ou la page Facebook du cinéma Le Select.
Le Grand Bain, le magazine culturel du Bouquet Grandvillais.
On retrouve maintenant la chronique Nouveautech de Mathieu de la médiathèque qui nous parle cette semaine d'un groupe qui s'appelle comment ? Les appuis-têtes de voiture.
Aujourd'hui, je vais prolonger un peu l'émission spéciale du Rambin consacrée aux œuvres marquantes des années 2010 en revenant en détail sur un album que j'ai seulement mentionné dans mon top musique. Il s'agit de Teens of Denial de Car Seat Headrest. Alors derrière ce nom énigmatique, Car Seat Headrest, en VF, ça signifie l'appui-tête du siège de voiture. On trouve un jeune musicien américain de 27 ans, Will Toledo, qui, dès le début des années 2010, alors qu'il sortait à peine de l'adolescence, a enregistré plusieurs albums livrés au compte-gouttes sur la plateforme Bandcamp. Bandcamp, c'est un véritable label numérique à destination des artistes indépendants et amateurs. Donc Will Toledo s'est illustré dans un genre largement balisé dans les années 90, la power pop noisy, c'est-à-dire un rock très mélodique, conjuguant les effets de saturation du grunge et du punk hardcore, avec l'écriture pop efficace de groupes tels que Weezer, Nada Surf ou les Lemonheads. Avec Car Seat Headrest, Will Toledo ne se contente pas cependant d'un exercice de style un peu vain, consistant à pasticher ses aînés avec un soin ripolliné. Au contraire, il adapte ce style musical à son époque, dopé aux technologies numériques, pour le meilleur et pour le pire. Avec l'album Teens of Denial en 2016, apogée de sa discographie et premier album publié par un label indépendant ayant pignon sur rue, le label Matador, Will Toledo marque les esprits. À travers une série de chansons étirées pour gagner en ampleur dramatique, un peu plus étoffées d'arrangements étonnants, il retrouve la nonchalance espiègle des années 90, alliée à l'angoisse contemporaine des millennials. Musicalement, on apprécie un faisceau d'influences d'un goût sûr, de la new wave impétueuse des Cars au grunge mélodieux de Nirvana, des premiers délires lo-fi de Beck au post-hardcore brinque-ballant des méconnus Modest Mouse. Teens of Denial restera à coup sûr un jalon essentiel de la scène rock des années 2010, une scène rock certes éloignée des projecteurs, mais toujours aussi vive et exaltante. Tells me I'm a mess. I couldn't get the car to start. I left my keys somewhere in the mess. It comes and goes in plateaus. 1 month later, I'm a my parents would be proud. Or fall asleep on the floor. Forget what happened in the morning. There are notes in your handwriting, but you can't make it up. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying. I'm only trying to get home. Drunk drivers, drunk drivers. This is not a good thing. I don't mean to rationalize or try and explain it away. It's not okay. Drunk drivers, drunk drivers. It's too late to articulate it. An empty feeling. You share the same fate as the people you base. You built yourself up against others' feelings and are so easily stripped away. But if we learn how to live like this, maybe we can learn how to start again. Like a child who's never done wrong, who hasn't taken that first step. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying, I'm only trying to get home. Drunk drivers, put it out of your mind. Perish the thought, there's no comfort in responsibility. Drunk drivers, it doesn't have to be. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the whales. Kill the whales. It doesn't have to be like this.
please listen to him. It's not too late. Turn off the engine, get out of the car and start to walk. Drunk drivers, drunk drivers, drunk drivers, drunk drivers. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the whale, kill the whale. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the whales, kill the
Drunk Drivers, Killer Whales, extrait de l'album Teens of Daniel de Car Seat Headrest.
Le Grand Bain, le magazine culturel du Bouquet Grandvillais.
Je reçois aujourd'hui Christophe Tostin, Marie Espel, Céline Guiffard-Jossier, professeur de français, Camélia, Mélissa, Sarah et Océane qui sont en première au lycée de la Morandière et qui vont nous proposer à partir de mardi une restitution d'un projet qui s'étale depuis le mois de novembre, si j'ai bien suivi tout ce qu'il s'est passé. Et c'est un jumelage entre donc le lycée de la Morandière et le théâtre de l'Archipel. Tout ça sous la houlette de Christophe Tostin, qui est metteur en scène et acteur, et qu'on a pu voir d'ailleurs au mois de février dans État Frontière à l'Archipel. Bonjour à tous, ça fait beaucoup de monde sur le plateau, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde. Hein. Bonjour, vous allez bien ? Comment est née cette idée de projet de faire un jumelage entre un théâtre et un lycée ? Je ne sais pas qui veut répondre. Céline ?
Alors, on a eu des contacts avec l'Archipel l'année dernière et donc on a eu cette proposition. On savait pas très bien au début comment l'intégrer puisqu'on est, vous ne l'avez pas loupé en année de réforme. Et donc on s'est dit qu'avec la naissance de la spécialité humanité, c'était l'occasion d'intégrer une nouvelle manière de faire. Donc ce partenariat culturel allait vraiment très bien avec le projet d'avoir des élèves vraiment littéraires qui avaient envie de s'investir voilà, sur ce volet-là.
Comment vous avez fait ? Alors, il y a que des filles comme élèves, mais j'allais dire déjà à l'époque, quand moi j'étais au lycée, déjà dans les sections littéraires, il y avait déjà que des filles, et je vois que finalement ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Ah, on a quand même des garçons, mais c'est vrai qu'on en a moins que dans les autres spécialités.
qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce projet, Mélissa ?
Ben, moi, ce qui m'a...
Je vais te demander de te rapprocher du micro, s'il te plaît.
Ce qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est le fait de devoir inventer, d'avoir une liberté d'écriture. Et bah, je trouve que c'est enrichissant, scolairement parlant et personnellement aussi.
Alors, on va peut-être expliquer un peu ce que ce jumelage, en quoi il s'est concrétisé. Christophe Tostin, vous êtes metteur en scène. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure ?
Alors, tout simplement parce que le spectacle que j'ai créé avec ma compagnie, qui s'appelle État Frontière, est programmé dans la saison de l'Archipel. Et pour accompagner donc la programmation de ce spectacle, on a mis en place ce projet de jumelage. Et comme le spectacle aborde la problématique de la migration contemporaine, l'idée c'était avant tout de faire des ateliers d'écriture avec des classes. Alors à la base, il y avait 5 classes et puis c'est descendu à 2. Aussi sous, je dirais, la conséquence de la réforme du bac. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de revisiter l'Odyssée d'Homère, mais en essayant de faire un parallèle avec la migration contemporaine. Donc, on a réfléchi, et puis j'ai commencé à travailler sur des propositions d'écriture avec les élèves, et on a construit notre Odyssée à nous.
Ça, ce travail, je vous l'ai dit, vous l'avez commencé au mois de novembre, c'est bien ça ?
Oui, 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 oui. Alors en fait, on fonctionnait par demi-classe, et j'ai eu par demi-classe 3 ateliers d'écriture de 3 heures. Donc ça faisait 12 séances en tout pour les 2 classes.
J'ai vu que vous utilisiez une application justement pour ces ateliers d'écriture.
Alors, c'était dans le projet, et puis finalement, on n'a pas pu l'utiliser parce que c'est compliqué d'avoir une salle informatique, mais que ce soit au lycée Lamorandière ou dans n'importe quel lycée. Ce sont des salles qui sont très demandées et il faut jongler avec les plannings de tout le monde. Et comme nous, on fonctionnait en demi-groupe, etc., etc., finalement, et malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser.
Donc vous avez utilisé la méthode ancienne, j'allais
exactement,
dire, avec un stylo et une feuille de papier.
Voilà, une bonne consigne d'écriture et puis des feuilles et des stylos et c'était tout aussi bien.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passait, un atelier d'écriture ? Vous, les élèves, comment vous avez vécu ça ? Sarah ?
Eh ben, on avait.
Alors c'est Bélissa qui répond, oui. Du coup.
On avait des consignes, donc le sujet principal c'était l'Odyssée qu'il fallait réécrire. On était tous, du coup, dans les demi-groupes, on était tous divisés par 2 ou 3 ou 1, mais souvent c'était par en duo. On avait des consignes juste de sujets. On devait décrire par exemple la relation entre deux personnages ou un lieu de rencontre ou des choses de ce genre, et on devait juste écrire comme ça nous venait.
Et alors, question piège, pour travailler sur l'Odyssée, est-ce que vous l'avez lu ?
Non.
Non.
Alors comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que c'était déjà un livre dont vous aviez entendu parler ? Est-ce que vous aviez...
J'en avais vaguement entendu parler pendant ma scolarité, mais je l'ai jamais étudié. Et Christophe nous a donné des petites indications, mais...
Et est-ce que ces ateliers vous ont permis de libérer votre écriture ? Vous avez senti que vous aviez, peut-être appris à se servir de votre stylo d'une nouvelle manière ?
Oui, après, c'est quelque chose qui n'est pas plus mal aussi qu'on ne l'ait pas lu, parce que ça nous permet de pouvoir... développer un peu plus notre imagination par rapport à ça, le fait que on reste pas que figé dans l'histoire, et le fait aussi qu'on peut développer notre créativité en écrivant à notre guise, le fait qu'on nous impose pas un style d'écriture particulier, et que on est par duo comme disait Mélissa, et puis on écrit comme ça nous vient, quoi.
En tant que professeur de français, quel intérêt pour vous de faire travailler vos élèves de cette manière ?
Alors, moi, je vais rebondir sur ce qu'elles viennent de dire pour répondre aussi à votre question, parce qu'en fait, cette année, avec la réforme du lycée, il y a aussi la réforme du bac de français que les élèves passent en première. Et dans ces épreuves, on a vu cette année la disparition de l'écriture d'invention, de l'exercice d'écriture d'invention. Et pour les élèves qui sont littéraires, qui ont des dispositions, qui ont envie d'écrire, ça a été une grande perte, en particulier pour Mélissa, qui me l'a avoué tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que le bac, aujourd'hui, propose des épreuves avec des exercices très formatés, la dissertation, le retour à un commentaire composé très cadré. C'est dans un souci d'égalité, d'équité de traitement entre les élèves, mais c'est vrai qu'on y perd aussi beaucoup
en
termes de créativité, ouais, de stimulation aussi intellectuelle. Et donc, cet atelier vraiment a été très bénéfique, je crois, à ce titre-là. Et alors, je vais rajouter aussi pour l'oral, pour le travail de l'oral, parce que les élèves passent bien sûr l'oral de français à la fin de la première. Et puis, c'est paru aujourd'hui... au bulletin officiel, le grand oral de terminale qui consiste à prendre la parole debout, un discours qui soit structuré, audible, écrire pour pour être entendue. Et donc, cet atelier, vraiment, est tombé à point nommé pour cette préparation.
Donc, après... Au-delà des ateliers d'écriture, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être mis sur scène, ce spectacle-là.
Oui, l'idée, c'est évidemment, la finalité, c'est de faire une lecture publique. Je dirais qu'on va mettre un petit peu sous forme de spectacle. Donc ça va être une lecture interprétée, en tout cas. Parallèlement aux travaux d'écriture qu'ils ont faits, je leur ai demandé aussi de fournir un travail vidéo, c'est-à-dire que ça faisait aussi partie du jumelage. Elle rigole parce que j'attends encore beaucoup de résultats de ça, j'ai pas tout. Mais ça va venir, je suis confiant. Donc en fait, l'idée c'était de travailler sur des petites vignettes vidéo en écho au texte qu'ils avaient écrit. Et ces vignettes vidéo vont accompagner la lecture publique qu'ils feront. Donc, au lycée La Morandière.
Ce sera mardi prochain. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale en restant dans l'univers de l'Odyssée, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale du film Oh Brother, des frères Cohen, avec George Clooney. C'est un film qui a déjà quelques années, mais si vous vous en souvenez, c'est aussi une adaptation de l'Odyssée.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to as I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way.
De retour dans le Grand Bain, toujours à propos de ce jumelage entre le lycée de la Morandière et l'archipel. Ce projet, c'est parti de l'Odyssée d'Homère, mais vous avez décidé de remettre ça, on va dire, au goût du jour, en parlant d'un sujet qui est à la fois local et actuel, qui est celui de la migration. Comment est née cette idée-là, et comment s'est-elle concrétisée dans le projet que vous avez mis en œuvre ?
Simplement parce qu'on parle souvent pour, par exemple, les Africains qui cherchent à rejoindre l'Europe, qu'ils appellent leur Eldorado, le fait de quitter leur pays, de traverser la Méditerranée dans des conditions assez dantesques, et puis de réussir à atteindre l'une des côtes européennes, et ensuite de traverser toute l'Europe pour essayer de se diriger vers l'Angleterre. Assez souvent, on entend le mot « odyssée », l'odyssée des migrants. Donc j'ai repris ce terme-là, et puis je me suis dit « tiens, essayons de voir avec l'odyssée d'Homère si on peut faire des rapprochements, faire des corrélations, et est-ce que ça pourrait être une base pour parler de ça ?» Donc la base, elle est là.
Alors je m'adresse aux élèves de première. Vous, le phénomène de la migration, bien évidemment, vous en avez entendu parler par les médias différents. Comment vous, quel regard vous portez sur ce phénomène en tant que jeune et en tant que grand vidé qui habitait au bord de la mer?
Déjà, on a commencé à parler de la migration dès la seconde, parce qu'il y avait une matière qui s'appelait la littérature et société, société-littérature. Et on avait abordé la thématique justement de la migration. Et du coup, c'est un sujet qu'on a l'habitude d'aborder, enfin, l'habitude qu'on a été habitué à aborder. Et le fait qu'on le réutilise cette fois-ci en tant qu'écriture, enfin, comme réinvention, c'est intéressant parce que du coup, on a déjà des notions sur cet événement qui se passe, d'ailleurs, qui est actuel. Et du coup. Ça nous permet de nous exprimer justement sur ce sujet-là et nous permettre d'avoir un avis propre à nous-mêmes.
Et du coup, alors, quel a été, comment vous avez fait le lien, vous, entre cette odyssée d'Homère et celle des migrants ?
On a appris par rapport à certains personnages qui étaient présents dans l'Odyssée d'Homère et on a réécrit un petit peu leur histoire. Ouais, leurs histoires et leur parcours. Et enfin, du coup, ça s'est fait comme ça.
Et du coup, vous êtes un peu mis dans la peau d'un migrant, ou moins dans l'esprit d'un migrant, pour essayer de retranscrire quels étaient leurs parcours et ce qu'ils pouvaient ressentir quand ils quittaient leur pays et qu'ils traversaient la mer.
Vu qu'on écrivait justement l'histoire de ce personnage-là, de l'Odyssée, forcément, on était avec lui et on pensait comme lui, parce que forcément, il fallait choisir pour lui, parce que c'est nous qui écrivions la pièce. Et du coup, ça nous a permis vraiment de nous rendre compte de certaines situations, de certaines choses qu'on ne sait pas forcément quand on est juste en classe et qu'on écoute un cours sur la migration.
Par exemple. Vous me dites qu'il a fallu se rendre compte, enfin se mettre à sa place pour avoir,
Se
mettre dans les situations.
Cette quête qui parfois est vraiment... certes, on sait qu'elle est dangereuse, mais là, on sent vraiment la peur et toutes les émotions des personnages dans ce périple. Et du coup, on apprend vraiment sur la migration et sur vraiment les sentiments qu'ils peuvent avoir lors de ce voyage et de retrouver leur famille ou d'avoir un meilleur avenir, et c'est vraiment touchant.
Quels sont les personnages du coup qui sont dans l'Odyssée que vous avez utilisé pour
Télémaque.
Il y a Pénélope aussi comme personnage. Ulysse, bien évidemment. Ulysse, ouais.
Forcément. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, sans peut-être nous dévoiler trop l'histoire, mais Ulysse, qui est-il dans votre histoire?
C'est un père de famille, donc il y a une femme, donc Pénélope, et un fils, un adolescent, donc Télémaque. Et
il est de quelle origine peut-être déjà au départ, si tant est que...
On n'a pas donné une origine précise.
Non, pas
si. Non, on avait dit, non. On avait dit que c'était dans un pays africain, mais il n'y avait pas d'origine précise.
Oui, on n'a pas stigmatisé un pays africain plus qu'un autre, voilà. Si ce n'est à un moment donné le passage par la Libye.
Mais qui est commun à tous les Africains finalement, veulent rejoindre les côtes européennes.
Exactement, qui est vraiment le point de départ. Mais on est parti sur Ulysse qui est parti en Europe, qui ne donne plus de nouvelles depuis des années et des années. Et Télémaque grandissant, se rendant compte de l'absence de son père qui devient pour lui terrible, décide un jour de partir, donc de quitter sa mère, Pénélope, et de partir tenter de rejoindre en tout cas son père quelque part. Et petit à petit, alors lui mène une enquête, il traverse toute l'Europe, donc il traverse vraiment de pays en pays pour atteindre l'Angleterre. Mais pendant ce temps-là, Ulysse, son père, lui, a commencé à revenir chez lui, comme dans l'Odyssée, et il se retrouve confronté aux éléments, il s'échoue sur une île où il rencontre Nausicaa, etc., etc. Et ce sont vraiment des personnages d'aujourd'hui. Mais on leur a... Alors, la grande question au début des ateliers d'écriture, on s'est dit, on va essayer d'inventer à partir des prénoms des personnages de l'Odyssée, des nouveaux prénoms. On a commencé à trouver des choses un peu étranges. Et puis finalement, sur la deuxième séance, je suis revenu, je dis non, on abandonne.
On garde les bons.
On garde les bons et puis on va travailler avec ça, ça va être beaucoup plus simple.
L'idée de base, c'était de s'inspirer des 24 chants de l'Odyssée, mais vous me disiez en préparant cette émission que finalement, il y en avait beaucoup plus finalement, à la fin, que vos esprits étaient partis peut-être plus loin que l'Odyssée.
Ouais, il y a eu beaucoup d'écrits, on a même dû en supprimer quelques-uns.
À ton grand désespoir, visiblement.
Oui, par exemple, Télémaque, il finit grand joueur de foot dans l'équipe de Liverpool. Donc c'est juste un petit détail, mais voilà la liberté qu'on a pu prendre sur l'écriture.
Le spectacle sera donc donné mardi prochain au lycée de la Morandière. À quelle heure ?
Donc il y a une représentation à 17h30, mais qui est plus destinée en fait pour les élèves du lycée, et une à 19h30 qui sera vraiment tout public.
Donc on vous incite à vous rendre à 19h30 au lycée pour admirer ce travail. Il y aura donc une lecture sur scène, des pastilles vidéo, c'est bien ça ?
Oui, et un accompagnement musical aussi qui viendra soutenir tout ça.
Quel bilan vous tirez de cette expérience, tout ce temps que vous êtes ?
Je trouvais ça très enrichissant. Ça m'a permis de retrouver... Le goût de l'écriture que j'ai toujours eu et que avec l'école j'avais plus vraiment la possibilité d'exploiter, et ça m'a fait du bien personnellement.
Ça m'a aidé encore plus, déjà que j'aime beaucoup écrire ou lire et ce genre de choses. Ça m'a aidé à développer encore plus ma créativité et mon imagination, donc c'était assez enrichissant.
Puis ça nous permet aussi d'avoir une plus grande confiance en soi après, parce qu'on se dit qu'on est fier de ce qu'on a fait au final.
C'est vous qui serez sur scène mardi ?
Oui.
Ouais. Vous n'avez pas trop les chocottes ?
Un petit peu, ouais.
Un petit peu.
On est stressé. On n'est pas habitué vraiment à faire beaucoup d'oral, donc
pour l'instant ça va, mais après.
Vous avez déjà fait des répétitions ou pas encore ?
Non.
Pas encore. Mais ça va venir avec les répétitions, ça va bien se passer.
Oui, on en fera quelques-unes.
Trois, je crois.
Deux.
Ouais, deux.
Et vous, en tant que professeur de français, quel bilan tirez-vous de cette expérience, Céline ?
Ah bah c'est un bilan extrêmement positif. On est parti un petit peu, on a eu l'impression de faire du saut en parachute au début, parce qu'on était en plein dans la réforme et on ne savait pas trop comment intégrer le projet pédagogiquement. Et il se trouve qu'il y a des fils qui se sont noués assez spontanément, en fait, puisque l'Odyssée est au programme aussi d'Humanité. Le premier thème, c'est la parole. Et du coup, il y a des éléments très théoriques qu'on a fait en cours, qu'ils ont appliqués, même sans s'en rendre compte, sans le savoir. Après, en discuter avec eux, c'est très intéressant. Puis je crois que l'école, elle ne doit pas servir qu'à préparer au bac. Elle doit servir aussi à stimuler nos jeunes esprits et à leur permettre aussi d'avoir justement cette espèce de créativité, d'imagination, ces moments un petit peu à part, ces parenthèses qui sont quand même, il faut l'avouer, de plus en plus rares dans l'éducation nationale. Voilà.
Christophe, en tant que metteur en scène, vous, se replonger dans une classe de lycée et tout ça, vous en avertirez quel... Quel sentiment ?
J'adore ça. Enfin, c'est surtout que je sens que je suis un espace de liberté pour les lycéens. Donc j'arrive et j'essaie de leur faire comprendre que c'est un espace de liberté avant tout. Même si on se retrouve dans un cadre scolaire, dans une classe, et puis là pour travailler, on se retrouvait en plus dans la salle d'examen du lycée. Très vite, j'arrivais à leur dire vous allez vous mettez par deux. Et puis on fait des petits chantiers d'écriture comme ça, puis on se retrouve, on échange, on parle, on discute. J'insiste pour qu'ils m'appellent Christophe et qu'ils me tutoient, ils n'y arrivent pas, mais c'est pas grave. Mais c'est d'essayer vraiment d'ouvrir une bulle d'oxygène et petit à petit, je les vois prendre confiance dans ce qu'ils arrivent à écrire. Ils comprennent qu'ils ont le droit de tout écrire et que là, à partir de là, ça devient très riche. Ouais.
Et vous me disiez vous aviez été presque fasciné par justement jusqu'où ils ont été plus loin que le lycée et tout ça.
Ah oui, parce que moi je me laisse porter en fait, c'est-à-dire que je donne juste des consignes d'écriture, mais j'en donne le moins possible pour que eux trouvent le plus possible d'ouverture. Et le chemin que ça a pris était vraiment très inattendu, mais c'est surtout la fin.
Oui.
Voilà.
Oui. Il faudra venir la découvrir sur scène mardi. Un petit mot, Marie. L'archipel dans ce projet, quel a été son rôle?
Eh bien, nous, on est là pour faire le lien entre un établissement scolaire et un artiste, pour permettre aux élèves de toucher à la création. Et donc, quand j'entends les témoignages qu'on a entendus tout de suite, je me dis que le pari est réussi. Et ça fait plaisir.
Merci. Écoutez, on vous incite à aller voir ces deux représentations qui auront lieu le mardi 10 mars, surtout celle de 19h30 qui sera ouverte à tous les publics, afin de savoir le fin mot de cette odyssée remise au goût du jour. À noter aussi que cette représentation fera l'objet d'une mise en onde, mais vous retrouverez probablement cette odyssée sur les ondes du Bouquet Grandvillers. Un grand merci à tous. Et puis, on croise les doigts pour mardi.
Merci.
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 Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, tout comme le coq. Notre totem animal entend le courroux des âmes qui saignent, fascinées par le gourou qui s'agite sur la scène. Il parle de l'avenir de l'homme. Honte à tous ceux qui contreviennent à ses dogmes. Ils traitent les noirs de singes et pactisent avec les plus noirs instincts que les crises attisent. Tant de responsables aux misères du peuple offusqué. Les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés. Méchants bobos parisiens, crypto-gauchistes de malheur, responsables du déclin de la famille et des valeurs, se préparent au grand retour des fossoyeurs qui fascisent. Encore du beurre pour les vendeurs de valises. Ça t'a manqué d'avoir à nouveau des copains qui viennent te voir en banc à 5 heures du matin. Illumine ton visage d'une étrange clarté. Que caches-tu dans ta cave? Tant de responsables aux misères du peuple offusqué. Les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés. People, Rome en roulotte, parasite, bouffeur d'alloc aux enfants sales et unijambistes. Devrons-nous nous tenir à carreaux sous le drapeau et nous faire des UV qui font blanchir la peau? Cette fois-ci, le diable porte des barésilles et va danser au bal de l'amicale des anciens nazis. Tant de responsables aux misères du peuple offusqué. Les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés. Tant de responsables aux misères du peuple offusqué. Les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés. Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, tout comme le coq, notre totem animal entend le courroux.
Les pieds dans la boue, Alexis HK à l'instant sur le Bouquet Grandvillers.
Le Grand Bain, le magazine culturel du Bouquet Grandvillers.
Laurent, j'imagine que tu vas pas nous parler de l'écume des jours.
Non, je n'y ai pas pensé un seul instant. Je vais vous parler d'un... On n'y échappe pas, en fait. Je vais y revenir dans un instant. C'est le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian. Hein. C'est pour ça, ce mois de mars, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et c'était l'occasion de le redécouvrir. Tout le monde en a entendu parler, connaît le nom. Il faut aller voir de plus près. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous allez trouver très facilement. Par exemple, dans un hors-série Le Monde, qui est en vente en ce moment, qui est très bien fait. Donc là, vous allez trouver un peu toutes les infos. Le livre est intéressant parce qu'il a écrit 4 chapitres. Bon, il a écrit énormément. Et sur ce truc-là, il aimait beaucoup les polars américains. C'est le moment où l'Europe, des années 50, où les Européens découvrent le roman noir américain. Donc lui en a écrit, notamment sous pseudo, ce qui lui a pas mal embrouillé sa carrière littéraire, qui aurait pu être tout à fait différente, puisque son pseudo a pris le pas sur le reste. Donc on n'y échappe pas, c'est un inédit. Il a écrit 4 chapitres, il s'est arrêté. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'était sur la fin de sa vie, hein. Il est mort à 39 ans, vous savez, dans un cinéma, il avait le cœur maladement. Donc 4 chapitres, un inédit. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Loulipo qui va reprendre les 4 chapitres et qui va finir le bouquin. Alors qu'est-ce que c'est que Loulipo? Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. C'est une bande d'intellos, d'écrivains, qui à partir des années 60, de 1960, ont décidé de s'amuser avec la langue française. Alors le principe étant de se poser une contrainte, des contraintes pour stimuler la créativité et stimuler le travail. Alors il y a des exemples très célèbres, c'est Georges Perec et son célèbre lipogramme, hein, c'est qu'on écrit un roman entier sans écrire la lettre E, mais enfin on peut multiplier comme ça les exemples. Donc voilà, donc Loulipo a décidé de... Alors c'est amusant, hein, c'est très humoristique Loulipo, mais ça me fatigue assez vite quand même, mais ils ont décidé de finir le bouquin que Boris Vian avait commencé. Donc voilà, on n'y échappe pas, Boris Vian et Loulipo. Ce qui est amusant, c'est de voir le passage de Boris Vian aux écrivains, aux intellos de Loulipo et la façon dont ils vont réussir. Il ne faut évidemment pas qu'on sente la rupture, hein, ou le changement de ton. Et en même temps, il faut qu'ils puissent continuer à faire du Boris Vian. C'est plus lui qui écrit, il faut qu'on continue à sonner comme Boris Vian et en plus à s'amuser comme il s'amuse avec la langue française. Donc le petit extrait d'aujourd'hui, plutôt que de vous trouver un extrait, on n'y échappe pas, je vous propose, parce que Boris Vian écrivait des chansons, il a même fait un tour de chant et il écrit des chansons absolument merveilleuses qui ont été chantées par Serge Reggiani entre autres, hein, mais bon, c'est aussi le déserteur, hein, Boris Vian.
Donc, ou le grand orchestre du Splendide.
Ah oui ?
Eh oui.
Ah bon. Donc celle-là qui termine quand j'aurai du vent dans mon crâne. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie, les os tout verts, le crâne venteux, à comme j'ai mal de devenir vieux. Ben lui, il n'est pas devenu vieux. Donc voilà, on n'y échappe pas, Boris Vian et Loulipo, édition Fayard, ça vient de sortir.
Et c'est plutôt un essai ou c'est une...
Ah non, c'est un roman noir, oui.
Il
s'amusait à écrire un roman noir. C'est l'histoire d'un type qui rentre de la guerre avec une main artificielle et qui se rend compte que toutes ses fiancées sont assassinées les unes après les autres. Donc c'est un exercice humoristique sur du roman noir, sur un argument de roman noir, oui, bien sûr.
Et il en a écrit qu'une partie,
4
alors.
Chapitres. Et pas grand-chose, qui sont très courts. C'est une écriture très, très, très rapide, très vive, très légère, en même temps très réactive, très érotique. Il s'est amusé en écrire 4 chapitres, terminé. Loulipo arrive et écrit la suite.
Et est-ce qu'on sent la différence à la lecture, justement, entre les deux écritures?
Ah bah le truc, c'est que tu puisses pas sentir la différence, mais si t'es très très attentif, tu sens évidemment le passage, la façon de copier les astuces, la façon d'écrire, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce petit bouquin, ouais.
Aux éditions
Fayard.
Le grand bain.
L'heure maintenant de passer à notre agenda culturel. C'est moi qui vais commencer, je crois, puisque je ne vous ai pas dit tout à l'heure que Alexis HK, qu'on vient d'écouter, sera en concert ce soir à l'Archipel, avec son tour de chant Comme un ours, son dernier album.
Une exposition jusqu'au samedi 14 mars à la galerie Arrêtée rue des Juifs à Granville, avec les œuvres du peintre Charles Jacquette.
Une autre exposition, Marion Le Pennec, œuvre à l'encre de Chine, c'est prolongé jusqu'au 3 mai.
Au musée Anacréon.
D'accord.
Voilà, et on en parlera plus longuement la semaine prochaine, puisque Brigitte Richard, directrice des musées Grand Villet, sera notre invitée.
Très bien.
Samedi 7, demain donc, comment s'informer? C'est organisé une conférence organisée par le réseau des médiathèques Grandville Terre et Mer, et c'est à la médiathèque de Grandville entre 15 et 16h30. Pas toujours facile d'y voir clair dans le tourbillon des informations qui déferlent dans les médias et sur les réseaux sociaux, et j'allais dire surtout en ce moment. Sophie Eustache, journaliste au Monde Diplomatique et auteure de Comment s'informer, vous propose de faire le point sur le journalisme et l'information d'aujourd'hui. C'est pour les ados et les adultes, c'est gratuit, mais la réservation est conseillée au 02 33 50 34 09.
Demain, un spectacle à 20h à Longueville. Spectacle de Emmanuel Reva, que vous avez pu entendre sur le bouquet Grandvillais, interrogé par Rose.
Par Rose, dans La Vie en Rose.
C'est donc son dernier spectacle de stand-up. Et voilà, il a un humour que certains diraient pince sans rire, avec un mélange d'absurde. Il revient sur scène pour partager avec vous sa joie, sa bonne humeur et son cynisme profond.
Demain, samedi, automne, à la Lune Rousse, c'est-à-dire du violoncelle, du rock, de la chanson, à partir de 21h. Hein, la Lune Rousse, c'est au repas, deux routes du Bocage, Saint-Sauveur-le-Pommeré.
Toujours demain, mais à l'archipel à nouveau, Transatlantique Sextet, c'est du jazz à partir de 20h30, à l'archipel donc. Depuis 2016, l'université Rennes 2 et le conservatoire de Rennes entretiennent une relation de partenariat avec le Miles Davis Jazz Programme de l'université de Caroline du Nord aux USA. À la clé de nombreux échanges pédagogiques, culturels et artistiques, en 2020, l'équipe pédagogique américaine revient pour une série de concerts et de masterclass dans tout le Grand Ouest. Se joindront à eux Erwan Boivin à la guitare de l'Université de Rennes 2 et du Conservatoire de Rennes, et Stéphane Stranger, qui est batteur et qui est enseignant lui aussi au Conservatoire de Rennes. Le groupe proposera un répertoire de compositions originales s'inscrivant dans la tradition américaine vivante du jazz, ponctué d'hommages aux musiciens de jazz issus de Caroline du Nord.
Encore un concert demain soir, un concert de rock au MG Bar Épicerie, donc au Ménil-Garnier. C'est Sclavine qui sera accompagnée par son infréquentable homme de main des basses fréquences.
Voilà, alors on a écouté Sclavine, elle m'a envoyé des morceaux. C'est une fille qui est originaire de Valognes mais qui vit maintenant à Amiens, et ça dépote pas mal, et je pense que vous aurez l'occasion de l'entendre très rapidement sur notre antenne.
Demain, toujours session irlandaise au Relais Vinquay, à partir de 18h30, 18h30, 22h. Musique irlandaise donc à 20 route de la côte. Oui.
On passe au jeudi 12 mars à partir de 19h45, c'est le retour du jeudi, épisode 4. C'est proposé par Slam Va Bien, qui nous invite à participer à la scène d'expression libre intergalactique tous les deuxièmes jeudis du mois. Ça se passe donc au Django 51 rue Courée la semaine prochaine, jeudi prochain, sachant qu'un verre de Médiclorien est offert pour un poème, une impro, une chanson, une performance, un slam, une déclaration d'amour, un coup de cœur ou un coup de gueule.
À l'archipel, mardi 10 mars, à 20h30, Yokai, remède au désespoir. C'est du théâtre visuel à partir de 8 ans par le collectif Crumple. C'est une drôle d'expérience, inclassable, comme un livre d'images géants animés dans lequel petits et grands dénicheront des merveilles.
Jeudi 12, un spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. Alors, comment ça se lit ? Sa carte blanche, hashtag 9.6 Isabelle Quentin, c'est ça ? Organisé par la compagnie Dodeca. Hein, jeudi...
Ah, la compagnie 12... Dodeca.
Ouais, Dodeca. Jeudi 12 mars, 20h30, 22h. Alors, on a aussi la semaine prochaine, 10 degrés centigrades à Verse. C'est quoi, un autre spectacle de la compagnie Dodeca ?
Non, non, pas du tout. Ce sont les prévisions météo qui sont données par Facebook quand tu prévois d'aller voir un spectacle.
Très, très bien.
C'est que Facebook t'aime tellement qu'il te dit aussi comment t'habiller avant de sortir pour aller au spectacle.
Okay. J'espère que j'ai été clair.
Non, voilà, oui, c'était un spectacle qui est en fait donné dans le cadre des cartes blanches qui sont proposées par la compagnie Dodeca. On avait reçu Vincent Poirier à la fin de l'année dernière. Et il nous avait parlé de ces cartes blanches. Et bien, en voici une qui vous est proposée la semaine prochaine. C'est donc à Coutances, dans les locaux de la compagnie Dodeca.
Le Grand Bain.
C'est la fin de ce 15e numéro du Grand Bain. Merci à tous nos invités, Christophe Tostin, toutes les jeunes sirènes du lycée de la Morandière. N'oubliez pas que leur spectacle, c'est mardi à 19h30 au lycée Julio de la Morandière. On l'a pas rappelé, tiens, dans l'agenda culturel, donc il est le temps de le faire maintenant. C'est à 19h30, je crois. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, Marilyn, ton émission Nouvelle Vague est toujours en podcast sur radio.lebouquetgrandvidée.fr.
Oui, le dernier numéro avec une interview de Michael Ankiné.
Voilà, le responsable de l'espace jeune.
Oui, l'interview cinéma, bien sûr.
Bien sûr. Il a plein d'anecdotes sur le cinéma, Michael.
Oui, et à venir, j'annonce déjà, il y a un tournage en ce moment dans Grandville.
Il y avait un appel à figurants, mais oui. On vous en a pas parlé parce que c'était, il fallait y aller aujourd'hui.
Oui,
je crois,
c'est aujourd'hui. Ouais. Donc on en parlera dans Nouvelle Vague.
Et ben voilà, un téléfilm qui va être tourné, Péril à Grandville.
Oui, c'est ça.
Ouais. Laurent, ton émission littérature est consacrée à qui cette semaine, toi?
Ah, des choses terribles. J'ai mis du Dr Jekyll, j'ai mis de la poupée sanglante de Gaston Leroux et puis de L'île au trésor.
À retrouver là aussi en podcast sur radio.lebouquetgrandvidée.fr, tout comme cette émission. N'oubliez pas qu'elle sera rediffusée demain à midi. D'ici là, vous retrouverez juste après nous Xavier pour son bouquet des saveurs et Eric ce soir à 21h pour À la pointe du rock. Nous, on vous dit à la semaine prochaine avec donc Brigitte Richard comme invitée. D'ici là, passez une excellente semaine à l'écoute du Grand Bain.